Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de Chrétien d'Orient, nous sommes en compagnie d'un historien dont la spécialité est celle de l'Empire ottoman. Nous n'avons jamais encore abordé ce thème alors qu'il aurait dû s'imposer depuis longtemps, étant donné que les communautés chrétiennes d'Orient résidaient en très grande partie sur les terres du sultan turc d'Istanbul. Bonjour François Georgeon.
Bonjour.
Mais ce n'est pas un morceau facile. C'est pour cela que je profite de l'apparition d'un ouvrage magistral qui vient de sortir chez Fayard, je pèse mes mots, le dictionnaire de l'Empire ottoman, un ouvrage que vous avez dirigé en partie, un ouvrage qui est disponible depuis quelques semaines dans toutes les bonnes librairies. Je crois que c'est l'un des premières tentatives réussies de
l'Empire ottoman. Oui, il n'y a pas eu de dictionnaire jusqu'à présent en français de l'Empire ottoman.
C'est voilà. Donc il faut le préciser. Aborder 5 siècles d'histoire ne serait pas raisonnable dans le cadre de notre conversation ce matin. C'est pour cela que ma première question est de vous demander comment dans une telle œuvre, je crois qu'on est à plus de 1700 pages, comment vous avez intégré la question des chrétiens d'Orient, ce qui est un petit peu une nouveauté d'une certaine manière.
Oui, parce qu'elle est partie intégrante de l'histoire de l'Empire ottoman, puisque les chrétiens d'Orient étaient là avant l'Empire, et qu'ils se sont retrouvés donc pendant plusieurs siècles dans l'Empire ottoman jusqu'à sa disparition du Proche-Orient à la fin de la Première Guerre mondiale. En fait, on a abordé cette question comme celui des communautés en général, d'une manière plus générale, c'est-à-dire que nous avons voulu présenter l'Empire ottoman dans toute sa diversité et dans toute sa complexité, dans toute sa taille géographique, si vous voulez. Donc ça nous amenait forcément et bien évidemment à intégrer l'histoire des communautés. Alors il n'y a pas seulement les communautés chrétiennes du Proche-Orient, il y a celle de l'Anatolie, il y a celle des Balkans bien sûr, mais il y a également des communautés non chrétiennes, en particulier les communautés juives, qui elles-mêmes sont diverses dans l'Empire ottoman. Et par conséquent, on voulait absolument, si vous voulez, c'était fondamental, ne pas considérer l'Empire ottoman comme étant déjà, en quelque sorte, la Turquie en puissance, si vous voulez, mais comme étant un empire pluriel, et même, je dirais, extrêmement pluriel, sans doute l'empire le plus pluriel que l'on ait connu dans l'histoire. Donc voilà comment on a intégré, si vous voulez, le problème des chrétiens d'Orient dans une problématique plus générale, qui est celle donc de l'ensemble des communautés, disons, non musulmanes dans l'Empire, auxquelles on voulait restituer toute leur place, qui est évidemment très grande et très longue, puisqu'elle couvre toute l'histoire de l'Empire ottoman.
Alors je vois qu'il y a, donc c'est un dictionnaire, le principe d'un dictionnaire c'est que ça fonctionne par entrée, bien entendu, donc vous avez demandé à une multitude de spécialistes, chacun dans son domaine, d'écrire un article sur ce qu'ils connaissaient le mieux. Et je vois que pour l'article sur le chrétien d'Orient, qui est assez conséquent, c'est Bernard Héberger, qui est un habitué de notre émission du dimanche matin. Il a une bonne place. On sent véritablement qu'il y a eu un souci de n'oublier personne. Comment vous avez un peu réfléchi à cette par rapport à vos autres confrères, par exemple. Comment vous en êtes arrivé là?
C'était évidemment quelque chose que nous, les trois éditeurs, au sens anglais du terme, c'est-à-dire les trois directeurs de cet ouvrage, Nicolas Vatin, Gilles Weinstein, malheureusement décédé, et moi-même, nous ne pouvions pas nous-mêmes aborder ces problèmes, nous n'étions pas spécialistes de ces questions, sauf pour ce qui concerne la communauté juive, Gilles Weinstein. Mais par conséquent, nous avons demandé, comme pour le reste d'ailleurs du dictionnaire, au meilleur spécialiste de traiter de ces questions sous un certain nombre d'entrées, bien sûr. Il n'y a pas un seul article. Vous avez cité l'article « Chrétien d'Orient » de Bernard Héberger, donc qui prend dans sa totalité le phénomène des chrétiens du Proche-Orient, c'est-à-dire qui depuis les Assyriens jusqu'aux Maronites et jusqu'aux Coptes, également donc d'Égypte, et puis par ailleurs nous avons des articles par exemple sur les Maronites. Nous avons un article également sur justement les communautés, ce qu'on appelle généralement en turc « millet », puisque c'est un problème fondamental dans l'organisation de l'Empire, c'est-à-dire comment ces communautés qui n'étaient pas musulmanes étaient intégrés au système impérial, à la fois sur le plan de l'administration, sur le plan de la culture, sur le plan social et sur le plan religieux également, c'est-à-dire sur le plan institutionnel, si vous voulez. Comment est-ce que ces communautés faisaient partie de l'Empire et comment peut-on dire qu'elles étaient ottomanes, car elles étaient pleinement ottomanes dans la mesure où elles dépendaient d'Istanbul et faisaient partie des territoires, ce qu'on appelait les territoires bien protégés de l'Empire, selon la formule ottomane.
Alors nous reviendrons, François Georgeon, sur cette notion de millet qui me semble assez importante et fondamentale, peut-être même pour comprendre jusqu'à nos jours la manière dont ces communautés minoritaires sont comprises ou sont vues. Juste une petite parenthèse, je vois que vous avez signé l'article sur le génocide arménien vous-même. Dans les études ottomanes, c'est pas un sujet, disons, qui est classique. Comment vous avez travaillé sur ce domaine?
Alors, je parlais des communautés du Proche-Orient, ce qu'on considère généralement quand on parle des chrétiens d'Orient. En réalité, le dictionnaire prend en compte l'ensemble du christianisme oriental, c'est-à-dire les Grecs orthodoxes, les orthodoxes slaves, les slaves orthodoxes, donc bien entendu les Arméniens sont pris en compte et ont des articles spéciaux, plusieurs articles sont consacrés à, que ce soit aux Grecs, aux orthodoxes, voilà.
À des personnalités.
Et à des personnalités, patriarches. Bien sûr, à certains patriarches qui ont joué un rôle important, à certains mécènes également, à certaines grandes institutions de ces communautés, puisqu'elles avaient leurs institutions propres. Alors, pour ce qui est des Arméniens, donc, il y a un long article qui retrace, dû à plusieurs spécialistes, qui retrace l'histoire des Arméniens dans l'Empire ottoman, puisque, en réalité, ils ont été parmi les premières communautés à être intégrées dans l'Empire ottoman au moment même avant l'Empire ottoman, au moment des conquêtes turques de l'Anatolie orientale, c'est-à-dire qu'ils commencent à la fin du XIe siècle. Ils sont ensuite intégrés à l'Empire ottoman et donc toute cette histoire est relatée jusqu'à 1914 par plusieurs spécialistes et l'on voit la place considérable que jouait cette communauté arménienne dans l'Empire ottoman. Juste un exemple, si vous voulez, le ministre des Affaires étrangères en 1913, c'était presque à la fin de l'Empire, Norhan Dungan était arménien. Et c'est un exemple, bien sûr, mais qui est quand même significatif du fait que les Arméniens étaient probablement, de toutes les communautés, ceux qui étaient les mieux intégrés, les plus intégrés. Peut-être les plus intégrés dans l'Empire ottoman. Beaucoup savaient le turc et ont écrit en turc. Et ils servaient dans l'administration, ils avaient des postes importants, et donc, y compris donc des postes politiques.
Alors, avec la présence aussi à Istanbul, si je ne me trompe pas, d'un patriarcat arménien.
Alors, bien sûr, il y a le patriarcat. Oui. Arménien à Istanbul, il y en a à Jérusalem, et donc il y avait c'est une église qui se dit apostolique, et par conséquent, qui a son individualité, même s'il y a eu des Arméniens catholiques et protestants, mais dans l'ensemble, le millet arménien est bien celui de l'église apostolique arménienne. J'ai abordé effectivement le problème du génocide. C'était un problème sur lequel j'avais beaucoup réfléchi, mais je n'avais jamais écrit, je n'avais jamais eu l'occasion d'écrire sur ce sujet, ayant plutôt mis l'accent dans mes recherches sur la façon dont les Arméniens étaient intégrés entrer et participer à la vie ottomane. Mais il fallait bien aborder cette question. C'est difficile, bien sûr, pour l'historien, parce que c'est une question qui a encore des plaies vives. Bien entendu, pour les raisons qu'on connaît, la non-reconnaissance par l'État turc de la réalité du génocide. Et donc, j'ai abordé la question du génocide en essayant de, non pas de partir de la définition, de partir de l'idée du génocide, mais d'y arriver, si vous voulez, plutôt en rappelant un petit peu le cheminement qui avait été celui des persécutions des Arméniens, de la question arménienne très rapidement traitée, des persécutions, des premiers massacres qui avaient eu lieu à la fin du XIXe siècle et à nouveau en 1909 à Adana, ensuite, à partir de la déclaration de la guerre par l'Empire ottoman aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, le sort des Arméniens dans une guerre qui n'était pas la leur, et d'autant moins que le sultan, enfin, on avait proclamé le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte au tout début de la guerre, et ils se sont trouvés donc dans une guerre entre la Russie et l'Empire ottoman qui était en conflit, donc. Lors de cette première guerre mondiale. Et cette situation terrible des Arméniens a un petit peu scellé malheureusement leur destin, si vous voulez, dans la mesure où ils étaient sur le terrain, enfin une partie des Arméniens se trouvait en fait de part et d'autre de la frontière. Le génocide a commencé par un déplacement des populations arméniennes qui étaient précisément près de la frontière pour des raisons qui étaient justifiées pour des raisons stratégique et militaire, si vous voulez. Et puis, en réalité, très vite, les massacres et les déplacements se sont étendus à l'ensemble de la population arménienne de l'Empire ottoman, y compris des territoires qui étaient tout à fait éloignés de la zone des combats, comme des villes comme Kayseri ou Ankara, qui sont au centre de l'Anatolie. Et les seules exceptions étant été les communautés arméniennes d'Istanbul, bien que certaines élites aient été raflées au tout début du conflit, et à Smyrne également, deux villes qui étaient davantage quand même sous l'œil des grandes puissances que les communautés lointaines de l'Asie mineure.
Ce matin dans Chrétien d'Orient, nous sommes avec François Georgeon pour présenter un ouvrage magistral, le Dictionnaire de l'Empire ottoman, qui vient de paraître chez Fayard. François Georgeon, j'aimerais que nous revenions sur un point assez important, me semble-t-il, dont nous avons parlé tout à l'heure un tout petit peu, qui est cette notion de millet, donc cette notion de nation. Je me suis toujours demandé de quelle manière, dans l'esprit musulman finalement, parce qu'on peut penser à la même chose vers la Syrie, vers l'Irak ou vers le Liban, ces communautés étant représentées par nation, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de cet état d'esprit? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant qu'historien?
Alors, d'abord, en ce qui concerne cette question de millet, millet c'est la forme turque du mot millah en arabe qui veut dire à la fois nation et religion. D'ailleurs, c'est une confusion qui est intéressante. On a parlé d'un système de millet qui est comme une sorte d'organisation très structurée. En réalité, celui-ci, les dernières recherches montrent que ce système n'a existé véritablement qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle. Auparavant, les communautés sont administrées. On parle d'ailleurs davantage de communautés taïfa en arabe. Arabe, si vous voulez, ou Jemaat, on parle davantage de communautés qui sont gérées selon la loi islamique, c'est-à-dire il s'agit de d'immis, de protégés, de gens du livre, qui reçoivent une protection d'après les fondements coraniques.
Peut-être faut-il revenir un tout petit peu sur cette notion, parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, la dhimmitude,
les dhimmis. Alors oui, la dhimmitude, c'est le statut donc de ces gens du livre, juifs et chrétiens, auxquels on reconnaît donc la protection du sultan, mais en même temps qui ont un certain nombre de stigmatisations et un certain nombre d'éléments d'infériorité. En particulier, le plus net, c'est celui qu'il paye un impôt particulier que ne payent pas les musulmans, donc un impôt de capitation. Et puis, ils sont soumis aussi à des phénomènes de stigmatisation. Ils ne peuvent pas représenter, ils ne peuvent pas aller au tribunal en justice. Ils ne peuvent pas témoigner, plus exactement, en justice. Ils doivent porter des couleurs spéciales. Ils n'ont pas le droit de monter à cheval. Enfin, il y a un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler une violence symbolique qui s'est exercée sur eux tout au long de l'Empire et qui fait que c'est un statut tout à fait assumé par l'Empire ottoman. C'est un statut d'inégalité.
Et qui fonctionne finalement plus ou moins bien jusqu'à la fin de l'Empire.
Qui a fonctionné dans la mesure où les identités restaient religieuses essentiellement, c'est-à-dire qu'elles étaient déjà, ce système était déjà connu avant même l'Empire ottoman. En réalité, à l'époque des Arabes, à l'époque des conquêtes arabes, si vous voulez. Donc, il y avait au fond une connaissance du système, enfin le système au sens de une sorte de grammaire, si vous voulez, comment il faut se comporter, quelles sont les règles pour se comporter et éviter les conflits. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de conflits. Mais les choses ont changé au XIXe siècle, en particulier parce que l'Empire ottoman a voulu s'est centralisé et que d'autre part, les grandes puissances ont essayé de s'appuyer dans leur pénétration de l'Empire ottoman, qui était à la fois économique, administrative, culturelle, s'appuyer sur ces communautés. Puisqu'il y avait une proximité de religion, si vous voulez, qui était tout à fait évidente, que ce soit la France avec, par exemple, les maronites, les Anglais, c'était plutôt avec les druzes, les Russes, c'était avec les orthodoxes, etc.
Donc une espèce de clientèle que chaque nation européenne a développée.
Exactement, une clientèle qui a modifié les rapports de force et qui a fait que les chrétiens ont souvent acquis des avantages, si vous voulez, d'ordre économique, administratif et... Parallèlement à cela, la Sublime Porte, c'est-à-dire le gouvernement ottoman, a reconnu l'égalité de tous les Ottomans, si vous voulez, devant la loi. Donc, un système qui était tout à fait en contradiction avec les principes de base de l'Empire ottoman.
Le système égalitaire. L'inégalité. Le système égalitaire dont vous parlez, il y a des réformes du 19e siècle. Voilà. Ce qu'on appelle les Tanzimats.
Voilà, exactement. C'est à l'époque des Tanzimats, et en particulier en 1856, que, dans un texte célèbre, qui suit la guerre de Crimée, l'Empire ottoman proclame l'égalité de tous les sujets.
Peut-on parler de démocratie ?
Non, on ne peut pas parler de démocratie parce qu'il n'y a pas de représentation. Il y a des représentations locales dans des assemblées locales où chrétiens, juifs et musulmans ont des représentants, mais on ne peut pas parler de démocratie. Simplement, cette égalité de droit, si vous voulez, va se heurter à d'abord, d'une part, à la tradition inégalitaire, et des musulmans vont s'opposer à ces réformes, et d'autre part, cette égalité va aussi se heurter à un autre problème, qui est la montée en puissance des communautés, et en particulier des communautés chrétiennes, du fait de leur rapport avec l'Europe, du fait des missionnaires, des mouvements missionnaires, en particulier américains, protestants américains, auprès des Arméniens, du fait du développement du capitalisme dans l'Empire ottoman, les sociétés s'appuyant de préférence sur des Grecs, des Arméniens, localement, si vous voulez, pour comme agents, comme courtiers, etc. Et donc, on arrive à ce paradoxe, si vous voulez, c'est que, finalement, les élites communautaires, je ne parle pas de toutes les communautés, mais les élites communautaires se sont trouvées parfois en avance par rapport aux musulmans de l'Empire ottoman. Et évidemment, ça a créé des frustrations des deux côtés, si je peux dire, hein, côté musulman et côté des communautés, puisqu'ils n'avaient pas le pouvoir politique. Si vous voulez. Donc voilà, la situation donc s'est beaucoup modifiée au cours du 19e siècle et on s'aperçoit d'un phénomène intéressant, c'est que les villes qui étaient souvent très pluriconfessionnelles avec des quartiers un peu mélangés, eh bien, on va vers au contraire ce qu'on a appelé un confessionnalisme, si vous voulez, c'est-à-dire comme il y a eu des violences contre les chrétiens, notamment au Liban, en Syrie, au milieu du 19e siècle, à Alep, à Damas, eh bien, il y a eu une tendance à se resserrer sur des quartiers confessionnels. Et en même temps, ou un peu plus tard, il s'est produit un phénomène inverse, vous voyez, c'est très intéressant, c'est-à-dire que les élites, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes ou juives, ont au contraire, on commençait à se regrouper dans des quartiers, alors qui étaient des quartiers pour les élites, si vous voulez, et qui étaient sur une base non pas ethnique ou religieuse, mais sociale. Mais c'est-à-dire qu'on a deux mouvements
en
qui
parallèle.
Sont finalement en parallèle, qui vont dans des sens contraires, hein, qui est d'une part une sorte de cosmopolitisme par en haut, si vous voulez, hein, des élites, et qu'on aperçoit assez clairement vers la fin du XIXe siècle, et par ailleurs, au contraire, un resserrement sur les identités communautaires à la base, si vous voulez, et sur place, localement.
François Georgeon, vous êtes historien, spécialiste de l'Empire ottoman, j'aimerais vous poser une dernière petite question. Faisons un petit peu un saut dans le temps, jusqu'à notre époque. Que trouvez-vous dans la Turquie contemporaine comme reste de l'Empire ottoman par rapport à ses mentalités, par rapport aux faits minoritaires?
Alors, il subsiste, si vous voulez, des préjugés. Il subsiste des réflexes, en quelque sorte, qui fait que les minoritaires qui existent... Moi, je n'utilisais pas le mot minoritaire pour l'Empire ottoman.
Pourquoi ?
Parce que il y a des situations où ces communautés ne sont pas en situation de minorité. Je prendrais la montagne libanaise, pardon, Salonique pour les Juifs, par exemple. On a eu ensuite, après la suite de la Première Guerre mondiale, des massacres, du génocide, des déplacements de population, effectivement des minorités. Le traité de Lausanne parlait des minorités à propos des chrétiens et des juifs. Si vous voulez, pour la première fois, c'était des minorités avec un statut. Il reste quelque chose de cette situation, si vous voulez, par le fait que les Arméniens, les quelques Grecs qui subsistent, ou les Juifs, ne peuvent pas être, disons, généraux dans l'armée turque. Il y a eu des députés, mais relativement peu, si vous voulez. Et finalement, ce ne sont pas des lois. Ils sont tous citoyens de la République turque. Ce ne sont pas par des lois, mais c'est plutôt par... des choses qui se maintiennent de la tradition, si vous voulez. Ils sont turcs, ils ont les mêmes droits que les Turcs, il n'y a plus d'inégalité d'aucune sorte sur le plan administratif, politique, juridique, mais dans les faits subsiste une différence. Voilà, subsiste une différence.
Dictionnaire de l'Empire ottoman avec François Georgeon, merci. Paru chez Fayard, disponible en toutes les bonnes librairies. Je remercie Valérie Lavalard, Dany Journaud, Didier Pinault pour la réalisation de cette émission Chrétien d'Orient avec Sébastien de Courtois, émission que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de notre émission. Et nous retrouvons maintenant le service protestant avec Michel Schaeffer. Merci.